Merci beaucoup. Dans votre histoire globale, il y a quand même des absents, la Chine, les Indes, le monde arabe. Vous pourriez en toucher un mot ?
Oui, je vous arrête tout de suite, je parle beaucoup de la Chine. Là, je vous ai donné un petit aperçu. Cataclysme fait 1 million de signes, donc il y a beaucoup de choses dedans. Et je parle beaucoup de la Chine dedans parce que c'était vraiment, l'endroit qui, depuis plus d'un millénaire, a été la partie la plus développée du monde. En fait, on l'ignore souvent, mais au XIe siècle, il y avait un endroit au monde où il y avait des hauts fourneaux, où on produisait énormément d'acier, où on utilisait des billets de banque. Un seul endroit au monde qui regroupait à peu près le tiers de la population mondiale vers l'an 1000, ça s'appelait la Chine. C'était la Chine des Song. Et puisque vous m'en parlez, c'est également un endroit qui a connu des ruptures écologiques. C'est-à-dire que le succès civilisationnel de la Chine a été tel qu'elle s'est heurtée aux limites écologiques de son modèle de développement et qu'elle s'est effondrée à plusieurs reprises à cause de limites écologiques. Donc ça, j'en parle beaucoup, je suis obligé de faire une présentation vraiment diagonale de certains points. Alors, Cataclysme est vraiment une synthèse de l'histoire environnementale anglo-saxonne. Il y a un demi-siècle de recherche, des livres qui parlent de beaucoup de sujets. J'ai essayé de synthétiser, donc ça, voilà, il y a beaucoup de choses. Et sur la Chine, il y a beaucoup de choses.
Oui, bonjour et merci pour cette présentation fulgurante et passionnante. Est-ce que le problème de l'humanité n'est pas ce que disait Platon, le pire des maux est que le pouvoir soit occupé par ceux qui l'ont voulu ? Parce que toute la prédation dont on dénonce actuellement, à travers MeToo, le viol, etc., n'est jamais qu'une anecdote par rapport à cette prédation faramineuse que vous avez décrite à propos du blanc, de l'occidental qui part partout et qui considère que tout lui appartient en négligeant tout à fait les autres espèces, les autres cultures, enfin l'être humain en général, l'enfant qui est maintenant violé, sodomisé, même par l'Église. Enfin bref, c'est tout l'effondrement des valeurs morales de l'homme et en particulier des élites qui apparaît comme maintenant au grand jour. Et la pornographie dont on dénonce à travers Griveaux n'est jamais que l'expression de la rage de ce peuple qui en a marre de ce comportement d'une extrême prédation de cette élite qui prétend mieux savoir que tout le monde comment exercer la gouvernance de la société.
Alors, je ne vais pas forcément abonder dans votre sens, mais sans vous contredire pour autant. La théorie que je défends, c'est que l'espèce humaine, lors du néolithique, n'a pas seulement domestiqué les animaux et les plantes, mais elle s'est autodomestiquée. C'est-à-dire que nous avons abandonné une bonne part de notre esprit critique et nous avons construit des sociétés pyramidales, mais extrêmement efficaces dans leur capacité à modifier les milieux, et y compris à nous modifier nous-mêmes. Et dès lors, les pires des actes, en fait, sont accomplis par procuration, par des chaînes de commandement qui dissocient complètement la charge morale. Par exemple, aujourd'hui, il est considéré comme tout ce qui relève de la mort doit être escamoté, et donc on délègue à un certain nombre de gens qu'on essaye de cacher les tâches de mort, comme dans les abattoirs ou la gestion des personnes âgées, parce qu'on ne veut pas en entendre parler, en fait. Et c'est ces mêmes mécanismes qui ont permis également les pires horreurs, comme la déportation dont je vous parlais des Africains. On l'a confié à des gens qui acceptaient de le faire, mais par toute une hiérarchie, on se cachait en fait des conséquences morales de ces actes-là. Personne n'allait planquer une caméra au milieu des navires négriers pour voir comment ça se passait. Donc, ce que je pense, c'est que nous avons une formidable capacité dans notre cerveau à nous raconter des histoires et à nous illusionner. Et peut-être même la notion d'élite complètement aveuglée par leur cupidité est-elle simplement un produit de notre cerveau ? Nous bouclons là-dessus. Nous avons construit, par exemple, des firmes transnationales, qui sont de véritables structures psychopathologiques. Je m'explique. Vous êtes un patron, mettons en Chine, vous avez acheté une usine en France et vous décidez que vous devez faire plaisir à vos actionnaires. Ben, vous donnez un ordre qui est on dégraisse la moitié du personnel dans l'usine. Cet ordre-là, il va passer par des tas de relais, de sorte que le Chinois qui aura donné l'ordre ne sera jamais confronté de visu aux salariés victimes de son ordre. Et finalement, ceux qui accompliront vraiment cet ordre, c'est-à-dire les assistants sociaux, la DRH locale, etc., seront ceux qui souffriront le plus de l'exécution de quelque chose pour lequel ils ne seront, dont ils ne seront pas responsables. C'est juste pour penser aux structures sociales que nous avons réussi à construire, qui nous donnent un formidable pouvoir sur le monde, mais dont nous avons oublié d'analyser le fonctionnement en termes moraux. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou si j'oriente un peu.
Tout est dit.
C'est un problème de récit, je dirais. Il faut substituer d'autres récits. En tout cas, c'est la seule solution que je vois.
Si j'entends bien, du coup, en fait, il faudrait couper en fait ces structures qu'on a mises en place, afin d'avoir justement une chaîne moins longue pour avoir un rapport direct avec justement le vivant. Et
oui, c'est une des solutions, c'est de relocaliser au maximum les éléments de production. De toute façon, c'est aussi une question de survie.
Pas que de production, même au niveau du pouvoir, au niveau de l'État. Finalement, alors, puisque à partir du moment où, enfin, par rapport à la question de monsieur. Ces récits sont construits du fait justement qu'il y ait plusieurs maillons.
Oui, alors il faut, à mon sens, détisser pour faire du local, mais on ne pourra pas détisser complètement le global parce que les problèmes sont globaux. Il faut pouvoir articuler différemment les rapports de force et surtout renforcer le local, la production locale, les rapports locaux. Il vaut mieux parler aux gens que de leur téléphoner ou d'échanger des SMS. Voilà, c'est aussi banal que ça. Mais retisser des communautés, c'est ce qui est le plus important. Après, le politique, oui, il est important au niveau local, mais après, il faut pouvoir interférer avec le global. Il y a des échelles, en fait.
Bonjour. Oui, mais en fait, ça boucle un petit peu avec ce qui vient d'être dit. Mais dans votre histoire globale, est-ce que vous avez envisagé que justement ce que vous appelez hasard pourrait s'appeler politique ? Je m'explique. Ça m'a plusieurs fois fait penser à deux bouquins de James C. Scott, que vous connaissez probablement. L'un qui s'appelle Against the Grain, sur les révolutions néolithiques, et l'autre qui s'appelle Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné. Et dans Against the Grain, l'idée centrale est justement que la révolution néolithique, avec la domestication des animaux et des hommes en même temps, n'est pas un phénomène qui serait né d'une sorte de un découlement naturel de l'évolution de l'humanité, mais avant tout la volonté d'un nouvel acteur qui s'appelle l'État de concentrer les populations pour asseoir son pouvoir et prélever sur la production de quoi assurer sa gloire, sa richesse, etc. Et donc, en fait, d'après lui, la plupart des populations résistaient à ça et essayaient de se tirer, en fait. Justement parce que il y avait des maladies qui naissaient du fait de la promiscuité entre les humains et avec les bêtes d'élevage. Et donc, du coup, ce n'est pas un hasard si 2000 ou 2500 ans plus tard, les Blancs qui débarquent en Amérique ont plein de microbes qui vont tuer les populations indigènes. Tout ça provient, en fait, d'une décision politique de concentrer le pouvoir, la production, etc., à cette époque-là. D'où ma question, mais qui rejoint les autres. Est-ce qu'il ne faut pas aborder ça d'un point de vue aussi politique, d'une histoire politique, et pas uniquement une histoire environnementale ?
Voilà. Alors, la thèse de James Scott, je la partage, et je constate une chose, moi, c'est que il y a comme le dit Scott dans Homo Domesticus, qui est la traduction en français de Against the Grain, le système agricole n'a pas fonctionné au début. C'est-à-dire qu'on a domestiqué des plantes, mais c'est resté 2-3% de la population mondiale pendant les 5000 premières années de l'agriculture. Ça ne marchait pas. Et les villages sédentaires qui s'établissaient sur la base des cultures drainaient des gens qui mouraient des fièvres qui naissaient justement de cette promiscuité forcée, des déchets que l'on crée, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a 5-6 000 ans, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et en l'espace de 1000 ans, les agriculteurs sont devenus majoritaires dans l'ancien monde. C'est vraiment parti à une vitesse extraordinaire. Et ce que dit, enfin, la thèse que nourrit Scott à travers la littérature scientifique disponible aujourd'hui, c'est que les épidémies ont eu cet effet-là sur les chasseurs-cueilleurs. Ils se sont sédentarisés de force parce que les chasseurs-cueilleurs arrivaient quelque part. Eux étaient devenus immunisés à ces maladies, les avaient relégués au rang de maladies d'enfance. En revanche, les chasseurs-cueilleurs, à l'arrivée des colons sédentaires, se retrouvaient démunis et tombaient comme les Amérindiens sont tombés devant les Espagnols, ce qui expliquerait la fulgurante transition vers l'agriculture qui opérait il y a 5-6 000 ans. Et donc, on peut voir ça aussi comme un hasard environnemental. Scott est un anarchiste et il lit cette histoire selon la tradition qui a été posée initialement par Pierre Clastres dans La Société sans État. Je ne suis pas forcément d'accord qu'il faille une lecture politique, parce qu'une lecture environnementale, encore une fois, suffit. Par ailleurs, il existe des traces d'inégalités bien avant les établissements des sociétés sédentaires du néolithique, comme l'a montré Brian Hayden, et puis dans des ouvrages plus récents, Guy Emmanuel. Donc il y a une autre littérature aussi qui induit une autre lecture du passé. Celle de Scott. Mais ça n'empêche pas de partager le diagnostic de Scott à 90%.
Vous avez suggéré plusieurs scénarios. Pourriez-vous donner un scénario optimiste de ce qui se passe?
Alors, on est plusieurs en ce moment à réfléchir à des scénarios qui pourraient mener à un avenir optimiste. Alors, j'enlève d'emblée ce qui est énergétiquement impossible, comme aller coloniser Mars. Voilà, on est déjà incapable de préserver la Terre, alors aller semer la vie sur une autre planète. Voilà. Mais le problème de ces scénarios, c'est qu'aujourd'hui, ils sont faits par des gens comme moi qui sont isolés ou parfois qui travaillent à deux. C'est le cas notamment d'un scénario assez récent, un des plus convaincants. Malheureusement, par exemple, si vous opposez, vous faites un scénario, celui de la pente douce, celui du business as usual, et vous obtenez un monde cauchemardesque. Puis après, vous faites un scénario où le politique a été intelligent et a orienté les décisions dans le bon sens et ça se passe bien. Et vous obtenez un scénario qui ne tient pas la route, en règle générale, aujourd'hui. Mais on est au début du processus. Ce à quoi j'appelle, c'est que l'on constitue des équipes pluridisciplinaires qui puissent construire des futurs qui soient envisageables. Pour donner une idée, c'est que la plupart des disciplines excluent complètement ce que dit la discipline d'à côté. On a essayé avec Collapsus de ne pas se heurter à cet écueil. Ce qui m'avait choqué, moi, quand j'avais terminé Cataclysme, quelques mois plus tard, en juin 2017, il y a eu deux rapports qui sont parus simultanément. Le premier d'une équipe de démographes français disait, estimait qu'en 2100, il y aurait 4,5 milliards de personnes en Afrique. Et un autre rapport posé par des climatologues, une équipe de 200 climatologues qui avaient modélisé les climats en Afrique sur un scénario d'émissions de gaz à effet de serre business as usual, estimant qu'il y aurait plus 3,7 sur la planète en 2100, on arrive à la conclusion que l'Afrique serait inhabitable plus de la moitié de l'année pour cause de température incompatible avec le maintien de l'activité physiologique humaine. Alors la question, c'était où allaient les 4,5 milliards de personnes dans ce schéma, quoi. C'était difficilement compatible. Donc, voilà, faire coexister sur des scénarios communs et sur la façon après d'orienter ces scénarios vers un futur souhaitable, des équipes pluridisciplinaires me semblerait être une première étape. Alors, ça a l'air d'être banal, mais personne ne le fait. Parce qu'aujourd'hui, on finance autre chose. On finance comment est-ce que les sciences sociales peuvent permettre de faire accepter la 5G, par exemple. Mais on ne va pas financer des scénarios globaux d'orientation du futur. C'est ce qu'il faut, l'importerait de faire. C'est très important la façon dont on regarde. Par exemple, l'effondrement du vivant est longtemps passé sous les radars des biologistes, aussi incroyable que ça paraisse. Il a fallu attendre 2012, le premier rapport de Barnowski, la première équipe réunie par Barnowski, qui disent « mais le vivant est sûrement en train de s'effondrer, voici, on modélise, ça donne des courbes comme ça ». Et les biologistes ont dit « non, c'est beaucoup trop exagéré, c'est pas comme ça ». Puis on a commencé à mesurer. Et non, Barnowski avait raison. L'équipe de Barnowski a totalement raison. C'est vraiment ce qui est en train de se passer, à la vitesse qu'il avait décrite. Mais on n'avait pas regardé. Voilà. Donc, il faut apprendre à étudier ces phénomènes. Il ne faut pas les balayer d'un revers de main en disant « ça fait peur ». Nous sommes face à un futur qui est inquiétant. Et il faut d'ores et déjà d'abord le quantifier, savoir si les analyses posées par certains dans Collapsus sont réalistes ou pas. Et une fois qu'on a donné des degrés de probabilité à ces différents scénarios en les analysant de façon pluridisciplinaire, essayer de voir s'il y a des scénarios qui nous semblent préférables et comment arriver à cette préférence. Mais on ne peut pas le faire seul.
Oui, vous revenez sur les notions scientifiques et je ne peux pas m'empêcher de revenir sur la partie politique parce qu'on trouvera des solutions que quand le politique s'attachera et mettra prioritairement la discussion scientifique à l'avant-plan. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il faut quand même se souvenir qu'en 1972, il y a eu l'étude du MIT qui annonçait les limites de la croissance. 30 millions d'exemplaires distribués dans le monde, donc il n'y a pas une chancellerie qui a dû échapper à ce rapport faramineux qui annonçait de dire ben, une croissance infinie dans un monde de ressources limitées est juste impossible. On n'en a absolument pas tenu compte, absolument pas tenu compte. Et aujourd'hui encore, on continue à vivre avec un train de vie qui à chaque fois augmente et dans lequel le Premier ministre dit on doit aller vers la croissance. Donc ils ne retiennent rien, mais absolument rien de ce qu'on leur apprend. Et c'est une gamine de 16 ans qui doit aller aux Nations Unies et au Parlement européen pour ramener les adultes à la raison. Donc on voit bien que la puissance d'argent, le niveau de cupidité, de délabrement moral des fameux 1%, mais plus, hein, parce que les milliardaires ont dit « nous avons gagné la course », à savoir qu'en imposant la globalisation, la mondialisation, c'est l'économie de marché qui donne le ton. C'est plus du tout, quand les États-nations avaient encore leurs frontières, le pouvoir politique avait encore une action sur ce qui se passait sur leur territoire. À partir du moment où on ouvre toutes les frontières, c'est terminé, c'est la loi du marché qui décide. Et la loi du marché, depuis tout temps, depuis le temps du Christ, on sait que les marchands sont immoraux, amoraux, ils n'ont pas de morale. C'est celui qui a le plus gros revolver sur la tempe de l'autre qui est capable de piller ce qu'il y a dans la cassette de l'autre. C'est tout. À la limite, tout votre développement scientifique n'a peu d'importance compte tenu que sur le plan politique, on n'a absolument pas résolu. La démocratie même représentative est une farce. On voit bien que Platon, ce que j'ai cité là, mais il y a plein d'auteurs qui citent qu'effectivement, les gens qui veulent le pouvoir vont le conserver. Et on fait tous le constat affligeant de la manière dont les politiciens s'accrochent désespérément à leurs avantages et privilèges, avec tous les abus en permanence. On voit maintenant l'affaire Fillon qui passe au tribunal et ça n'arrête pas, c'est tout le temps comme ça. Ces gens-là n'ont aucune forme d'empathie pour leurs voisins, même pour leurs propres enfants, même pour le futur. C'est ça notre drame actuel, c'est alors, de changer la structure politique.
Oui, mais du coup, votre seule conclusion possible, c'est de faire une révolution. Moi, j'ai une analyse un peu plus nuancée de cela. Je pense que le rapport du MIT était inaudible tout simplement parce qu'on était à la fin d'une période de croissance et que l'économie de croissance fonctionnait. Ça s'appelait les Trente Glorieuses. Ceux qui ont moins de 50 ans dans la salle ont dû oublier. Mais à l'époque, on connaissait une croissance économique qui vraiment sortait les gens de la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est un récit qui fonctionne. Je suis désolé. En Inde, au Brésil et en Chine, les gens sortent de la pauvreté. Ils sortent de la pauvreté, ils acquièrent notre niveau de vie. Et ce récit-là, il fonctionne de façon effective. C'est-à-dire que le capitalisme Et la première religion révélée, on peut le considérer comme une religion, qui accomplit ses promesses, non pas dans un avenir quand vous serez mort, mais ici et maintenant, sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il a encore une telle force, notamment en Chine. Petit retour, 30 ans en arrière, en Chine, tout le monde gagne le même revenu, c'est-à-dire peanuts que dalle, à part quelques privilégiés du parti. Aujourd'hui, vous avez 800 millions de Chinois qui épargnent. Il y a 30 ans, la surface construite par Chinois, elle est de l'ordre de 7 mètres carrés par personne. Aujourd'hui, elle est de 35 mètres carrés. La Chine coule plus de béton en 3 ans que les États-Unis en ont coulé durant le XXe siècle. Il y a bientôt plus de sable. Mais en tout cas, ils se sont développés et ils continuent de penser que c'est bon pour eux. C'est ça qui est important. C'est pas... La Chine est à un niveau écologique qui est bien plus désastreux que celui de l'Europe, mais elle continue ce développement-là. Et l'Inde entend lui emboîter le pas. Il faut vider le récit du capitalisme de son, comment dirais-je, de ce potentiel-là destructeur qui est nous pouvons vivre beaucoup mieux parce que nous possédons davantage. Et je vais terminer par rapport aux Chinois. Les Chinois ont pris le même chemin que les États-Unis. Nous avons aujourd'hui une forme de capitalisme sur Terre qui a changé profondément de nature depuis les années 70. La nouveauté fondamentale des années 70, c'est que des groupes ont confisqué les retraites des Américains en leur disant « on va faire des fonds de pension et on va investir intelligemment pour vous ». C'est le début de la construction d'un monde de places financières qui avait toujours existé, mais avec des effets de levier considérablement amplifiés et des capitaux énormes nourris également par les pétrodollars qui résultaient du surenchérissement du pétrole suite aux deux crises pétrolières. La Chine fait la même chose. La Chine ne peut pas aller sur les marchés internationaux d'échange, ou du moins pas de façon très simple. Et du coup, en gros, que font les banques chinoises avec l'argent des 800 millions de Chinois qui parviennent à épargner aujourd'hui? Imaginez le nombre, hein. Le grand fait majeur des deux dernières décennies, c'est que si dans les années 70, nous étions 200 ou 300 millions de personnes à vivre bien sur cette planète, essentiellement en Europe, aux États-Unis et au Japon, aujourd'hui, nous sommes 3 milliards de personnes à ressortir de la classe moyenne, à être mesure d'épargner pour nourrir des fonds financiers qui ont besoin de déboucher. Donc, que font les fonds chinois? Eh bien, ils investissent dans du dur. Et c'est quoi le dur pour des Chinois? Je vous ai dit, un Chinois, aujourd'hui, dispose de 35 mètres carrés d'habitation en moyenne. C'est à peu près autant qu'un Européen. Et ils ambitionnent, d'ici 5-10 ans, d'avoir 70 mètres carrés par personne, que vous multipliez par 1,4 milliard. Ça veut dire couler combien de béton? Ben, allez, par exemple, jeter un petit coup d'œil au Cambodge. Au Cambodge, ils ont acheté, qui est un pays extrêmement pauvre, donc les Chinois sont arrivés, ils ont acheté d'immenses superficies qu'ils ont enclos avec des grandes barrières en acier sur lesquelles ils peignent la ville éco-compatible, etc., qu'ils sont en train de vendre. Et le modèle de ville chinoise développée au Cambodge, c'est une piste d'atterrissage pour que la bourgeoisie chinoise puisse sauter de Pékin au Cambodge pour le week-end avec une immense ville de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de logements. Et ils vendent ça. Mais tout le monde sait que ça va rester inhabité. C'est pas grave. Le problème, c'est qu'il faut investir cet argent sur un projet spéculatif. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous échappe complètement. Et je ne pense pas que ce soit lié, vu de notre point de vue à nous, c'est nos élites qui restent dans un ancien monde. Mais ce n'est plus nous qui polluons en Europe, du moins. Nous restons sur nos trajectoires de pollution et de création de richesses antérieures, c'est-à-dire que nous stagnons au fur et à mesure que notre population vieillit. L'avenir du monde aujourd'hui se joue en Asie. Mais tant que l'Asie restera accro à ce récit qu'on a concocté en Occident et que les Chinois chercheront des endroits pour des débouchés pour leurs capitaux, nous continuerons à voir les problèmes s'accroître à l'échelle planétaire. C'est aussi ça, c'est décaler le regard, essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Alors, le progrès technique est avancé par les tenants d'un capitalisme qui pourrait se réformer. Mais en fait, il repose sur l'idée du découplage, c'est-à-dire qu'on pourrait créer plus de richesses tout en dépensant la même quantité d'énergie, c'est-à-dire qu'on augmenterait le rendement énergétique de la création de biens, etc. C'est possible, mais dans des limites physiques, c'est-à-dire que vous pouvez optimiser ce que vous produisez, faire moins de pollution pour produire autant. Mais cela demande d'autant plus d'investissement, de concentration, et il y a un moment où ça s'arrête, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Le progrès technique ne suffit pas à transcender ses limites. Oui, c'est l'expérience. À ce jour, on a toujours avancé des startups, des choses révolutionnaires pour accroître le rendement. Et une fois qu'on est arrivé à un rendement optimisé ou proche de l'optimum, ben on stagne. Oui, tout à fait. Oui, on va bientôt avoir les pétroles de l'Arctique que les Russes sont en train de sécuriser, oui.
Attendez, monsieur, on ne vous entend pas, en fait.
Je vous contredis un petit peu, parce que je crois que c'est parfois utile de dire que le progrès technique pourrait peut-être trouver de nouvelles ressources, chercher des nouvelles ressources et nous permettre peut-être, mais je confirme ce que vous dites, réchauffement climatique et réduction du nombre de biodiversité. Ok. Est-ce que le monde serait possible en continuant avec ce progrès technique pour faire vivre cette population?
Alors, probablement, de toute façon, on va nous vendre du progrès technique parce que c'est sur quoi on investit. Alors, par rapport au pétrole, le pétrole coûte de plus en plus cher à extraire. Non. Oui, mais ça, c'est des raisons géopolitiques et épidémiologiques. C'est temporaire. On est dans une situation de surproduction alors que le marché s'est tassé parce que la Chine en consomme beaucoup moins. Voilà, c'est pour ça qu'il coûte moins cher. Mais il va repartir à la hausse. Et les États-Unis ont beaucoup de problèmes parce qu'ils produisent un pétrole de schiste non conventionnel qui pose beaucoup de problèmes environnementaux. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est qu'il n'est pas rentable tant que le pétrole reste à des coûts très bas. Oui. Non, enfin, bon, le pétrole de schiste pose un grand nombre de problèmes, voilà, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une solution pérenne. Par rapport à la technologie, de toute façon, nous allons, dans la machine technologique dans laquelle nous sommes, avancer des solutions technologiques que les Chinois sont déjà en train de mettre en œuvre à l'échelle de leur territoire. À savoir, pour parer au réchauffement, nous allons forcément, ça va être la tendance naturelle des sociétés, recourir à la géo-ingénierie, essayer de modifier le climat pour échapper aux conséquences les pires à venir. On ne sait pas comment on va faire, mais je peux vous garantir qu'il y a d'ores et déjà des études pour essayer de capter du CO2. C'est ce qui est préconisé également par le GIEC. Essayer de refroidir le climat localement. Ça se fait en Chine. Ils sont en train notamment d'ensemencer les nuages au-dessus du Tibet pour faire pleuvoir afin de ralentir l'érosion des terres. On va faire des forêts artificielles, on va faire un tas de choses. Et cela ira de pair également avec le forçage génétique pour pallier la disparition du vivant. Par exemple, si les forêts risquent de brûler, si ça se réchauffe trop, comme on l'a vu en Australie, on va changer probablement la génétique des arbres, c'est-à-dire qu'on va répandre des gènes qui leur permettraient de résister à la chaleur et de capter du carbone en dépit de la montée des températures. Parce que quand les températures montent, les plantes ne poussent plus, elles développent leur système racinaire. Donc ça pose un souci. Ça pose un souci pour le blé notamment. Donc il va falloir le modifier génétiquement si on veut continuer à en récolter autant. Voilà. Donc on va de toute façon persister dans ces technologies-là. Je suis d'accord avec vous, on va artificialiser le monde. C'est un des scénarios possibles et pour l'instant, c'est la pente de moindre résistance. Mais est-ce que c'est l'avenir dont nous avons envie? Donc, c'est des questions dont on doit s'emparer.
Oui. J'attends sagement d'avoir la parole. Donc, vous avez publié, il y a une interview de vous qui est apparue hier dans L'Écho, dont le titre est assez...
J'ai pas vu l'interview, je me rappelle l'avoir délivrée.
Je l'ai là devant moi, je me ferai un plaisir de vous l'offrir éventuellement. Le titre de l'interview dans le journal s'appelle « Avec le coronavirus, nous avons pour la première fois respecté l'accord de Paris par la diminution que l'on a pu voir sur des images satellites. »
Très temporairement, hein, sur un
mois. Oui, bien sûr. On a pu voir sur les images satellites, effectivement, avant et maintenant, l'évolution de la cartographie chinoise, mais est-ce qu'il est imaginable, ou comment peut-on imaginer, d'aboutir à un respect de cet ordre sans passer par, qu'on appelle ça une pandémie ou pas, c'est peut-être une question d'intérêt. La deuxième, vous évoquez que, l'article vous fait dire que des solutions comme le zéro déchet ou la voiture électrique, et là, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à 400 millions de voitures électriques, ça fait toujours 400 millions de voitures qui circulent, qu'elles soient électriques ou pas, etc. Quelles sont les solutions, les itinéraires que tout un chacun peut logiquement développer sans être entre le scénario « ça ne sert à rien » et « on va à la cata ».
Alors, il y a deux questions. C'est l'accord de Paris pour respecter. Donc, c'est là, on rejoint la question de monsieur. C'est aux politiques de le mettre en œuvre. Ils se sont engagés à ce qu'on ne passe pas le cap des 1,5 degrés. Donc, il va falloir qu'ils aillent avec leurs petites mains attraper le CO2 qu'on a déjà émis pour que ce soit respecté. Mais bon, c'est les politiques qui ont fait une promesse. Par rapport plus sérieusement à votre seconde question, comment dirais-je ? En histoire globale, on oscille entre deux échelles pour restituer une histoire. L'échelle du local, l'échelle du global. Parce que le local reflète le global ou donne des idées de ce global. J'encourage, moi, à renforcer le local par toutes les expériences qui sont en cours, rejoindre ces expériences, etc. Quand on est exposé à ces thématiques d'effondrement, en fait, et qu'on est isolé, on ressent une profonde angoisse. Donc, l'idée, c'est de faire, c'est de rentrer dans des groupes, de partager ce qu'on a et d'essayer de faire résilience à l'échelle locale, même si, in fine, ça ne servira pas à grand-chose sur le destin de la planète. Ça fait un bien fou aux individus et c'est ce qui importe parce que nous sommes tous des gens qui avons des émotions. Donc il faut s'impliquer dans le local et le rendre résilient. Et peut-être que ça permettra de traverser ces moments-là beaucoup plus facilement s'il y a des problèmes environnementaux qui se déclarent. Il n'empêche qu'il faudra agir sur le niveau politique et se mobiliser pour cela tant qu'on est encore en démocratie. On l'est de moins en moins, là, je vous rejoins. Mais c'est une des façons d'agir. Après, les Chinois, même s'ils ne sont pas en démocratie, ils ont aussi des façons d'agir sur leur gouvernement. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi en regardant ce qui se passe ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
J'avais une question avant vous et nous finirons par vos deux dernières questions.
Je me demandais, parmi les 40 experts qui ont contribué à Collapsus, s'ils étaient tous européens ou si vous en aviez des Africains, des Chinois, etc. Comment vous envisagez peut-être de collaborer avec d'autres réseaux de chercheurs ? Enfin, moi, dans mon travail, je suis beaucoup en contact avec des Africains, enfin, je veux dire, des ambassadeurs, etc. Et je suis toujours désolée de voir que ça ne les inquiète, mais alors absolument pas. C'est des enjeux globaux, c'est bien gentil. Ici, je ne sais pas, on est tous des blancs, bien blancs. Pourtant, ce n'est pas représentatif du tout de Bruxelles.
Il n'y a que des francophones. Il y a trois Belges, essentiellement des Français. Il y a un Italien. Voilà. Dans Collapsus, c'est pas une volonté de notre part, c'est simplement qu'on est allé dans des réseaux qu'on connaissait, qu'on avait observés. En tant que journaliste, je coordonne beaucoup d'ouvrages collectifs sous la forme de hors-série ou de livres qui sont publiés aux éditions Sciences Humaines. Et j'ai récemment coordonné un numéro, un hors-série sur l'Afrique. Et j'avais dans l'ambition, alors j'essaye de faire de la discrimination positive, c'est-à-dire que d'abord j'essaye d'avoir un maximum de femmes dans les ouvrages. Alors on nous a reproché à Laurent Hayet et moi-même de n'avoir déniché que 7 femmes dans Collapsus, et pourtant on s'est vraiment démené. On a essuyé 5 refus, ce sont des femmes. La plupart du temps, c'est parce qu'elles sont sursollicitées qu'elles refusent. Parce que, il y a très peu de femmes dans les disciplines scientifiques et quand elles sont présentes, elles ont trop de travail. C'est étonnant, hein, surtout dans des temps où on oblige à la parité. Alors pour les Africains, pour mon numéro Afrique, j'avais rêvé qu'il y aurait beaucoup de femmes. Il n'y en a pas énormément, mais ça c'est normal en histoire. Et qu'il y aurait moitié d'Africains, j'ai galéré. pour avoir des experts africains qui acceptent de collaborer à ce type d'ouvrage. Et au final, j'ai dû demander à des collègues d'aller interviewer les rares experts africains parce que ceux-ci n'avaient pas le temps d'écrire un article. Voilà. Donc moi, je suis très intéressé si vous connaissez des Africains qui soient disposés à travailler. Je travaille aujourd'hui avec un économiste africain, mais c'est quasiment le seul qui accepte de me consacrer un peu de temps à des échanges, quoi. Voilà. Et effectivement, les élites africaines ne sont pas forcément très au courant des problèmes climatiques, mais dans certains cercles, ils commencent à l'être.
Alors, moi, j'ai une question, c'est ici. Je suis debout.
Oups, ici. Alors, déjà, on ne peut jamais regarder le fond de la salle.
Alors, c'est justement le thème que j'ai envie de partager, c'est le fond. Merci d'abord pour votre partage. Alors, moi, je n'ai fait aucune étude. Je suis d'origine marocaine, née à Bruxelles. Et le sentiment que j'ai en venant ici, c'est ma psychanalyste qui, elle a fait des hautes études, qui m'a dit va, parce que ce thème-là me parle intuitivement. Le fait que justement tout ce que j'ai entendu, c'est partagé par un homme, vous êtes un homme, c'est que monsieur, j'ai jamais vu qui a partagé, mais il y a eu beaucoup d'histoires de politique, et c'est souvent des hommes, et j'ai le sentiment, puisque vous avez parlé de sensitif, qu'on est des êtres d'émotion, que c'est justement, ça c'est mon intuition qui parle, c'est en collaborant avec des enfants, des femmes, des hommes, ensemble et de laisser parler les émotions qu'on pourra peut-être un peu faire bouger les lignes tout en étant dans des réseaux, ça je partage parce que je le fais, vous voyez, je suis venue avec ma petite fille de 3 ans et demi, c'est nouveau, c'est vrai, et les réseaux sont souvent on va dire sus par les gens qui ont fait des études ou des gens comme moi, des curieux, ou des gens qui sont très intuitifs, ce que je suis. Et c'est ce que je fais de plus en plus. Et je remarque souvent que c'est souvent... c'est souvent fort partagé par des hommes. Et qu'effectivement, quand il y a des femmes qui osent prendre la parole comme moi aujourd'hui, bah, souvent on se dit, bah, en tout cas moi je vais parler en jeu, j'ai fait aucune étude. Mais par contre, j'ai des choses à partager, ne fût-ce que les partager comme je fais aujourd'hui, parce que je prends la parole, parce que j'ai l'audace d'exprimer ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est vraiment d'aller dans des réseaux, de se dire ce qu'on ressent, et de collaborer, et de se dire, et de parler, de donner des idées, et petit à petit, idée après idée, les implanter dans nos vies. Parce qu'il y a les idées, ça c'est très, pour moi, c'est très polarité yang masculine, et puis il y a la pratique, c'est très féminin. Un exemple concret, quand j'ai décidé de mettre au monde ma fille, j'étais très étonnée, alors que c'était une femme, et elle m'a dit, ah ben c'est très bien, vous serez sur la table, et puis moi je vais vous mettre un boc en dessous de votre sacrum pour que je puisse moi bien contrôler votre accouchement. Et j'ai dit, quoi ? Vous allez contrôler ? Ah, j'ai dit, non, enfin, moi ce qui me semble, c'est que je vais sentir. Et elle m'a dit, ah, mais j'ai besoin de pouvoir contrôler. Et c'est ce qui, en fait, revient souvent. C'est ce contrôle, à mon avis, depuis très longtemps, par l'analytique, par le logique, etc., par la, vous avez beaucoup dit, la domestication. Et on a un peu oublié l'intuitif. On a un peu oublié cette polarité yin, comme moi j'appelle, parce que j'ai après un peu... explorer dans... C'est au-delà d'une question, c'est peut-être une autre conférence, mais bon, peut-être que j'ai peut-être un nouvel avenir qui se crée. Je vais m'arrêter. Mais voilà, j'avais juste envie d'apporter ça. C'est de collaborer, effectivement, de continuer à aller dans des réseaux et de dépasser l'effet anxiogène que j'entends d'amis à moi qui ont fait des grandes études et qui sont en burn-out, comme je dis, et qui me disent, mais Inde, mais si je vais aller à la politique, je vais faire un burn-out et je ne vais jamais pouvoir continuer à m'occuper de mes enfants, mais il va falloir qu'on aille parler, échanger. Et donc, pour dépasser ce réchauffement climatique, c'est aussi dépasser cette tendance anxiogène et prendre la parole en tant qu'être humain et de toute génération. Voilà. Merci.
Merci à vous.
Ce sera la dernière question.
Oui, ben c'est le fond qui va conclure. Alors, je me demandais, effectivement, j'avais déjà entendu beaucoup ce que vous avez dit aujourd'hui, et merci à la personne qui l'a dit. Vous avez un article dans l'Écho, effectivement, que j'ai lu aussi. Je me disais, tiens, effectivement, les 80%, 19% qui ne changent pas depuis des décennies, effectivement, je m'étais dit, tiens, y a soit quelqu'un d'autre l'a dit, soit c'était vous. À propos, justement...
Non, c'est pas de moi.
Non, mais je veux dire que je l'avais lu de quelqu'un d'autre hier ou aujourd'hui. Vous parliez effectivement de catastrophe qu'est le pétrole de schiste aux États-Unis. Et effectivement, ce n'est pas rentable. Et malheureusement, l'OPEP semble se diriger vers une chose, refuserait de baisser les prix pour casser effectivement le pétrole de schiste, mais plutôt à partir pour effectivement un statu quo en se disant on laisse les Américains de leur côté faire leur pétrole de schiste et nous, on continue de notre côté aussi. C'est effectivement assez décevant. Alors, petite chose par contre positive, dans le contact humain, il y a encore des gens, c'est peut-être une question de génération, qui ont encore juste ce qu'on appelait un téléphone bête, qu'on prenait au téléphone intelligent, traduction de smartphone aussi, et qui préfèrent le contact direct. Et je constate que je ne suis pas le seul, et de plus en plus de gens ont un téléphone bête, un dump phone, paraît-il en anglais, par rapport à un smartphone, là-dedans aussi, qui permet de téléphoner, d'envoyer des SMS, et c'est tout.
Merci.
Merci beaucoup à tous. Merci à beaucoup. À vous, Laurent. À bientôt.